Bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins.
I find your lack of faith disturbing.
I felt a great disturbance in the force, as if millions of voices suddenly cried out in terror and were suddenly silenced.
Ceux qui sont enivrés de convoitise tombent dans le courant comme une araignée tomberait dans la toile qu'elle a elle-même tissée. Ceci, le sage l'a coupé et il erre, sans désir, renonçant à tout chagrin. Abandonner le passé, abandonner le futur, abandonner le présent, devant, derrière, milieu. Traversant pour aller sur l'autre rive de l'existence, avec le mental libéré de toute chose, ne subissez pas de nouveau la naissance et le déclin. Pour la personne qui est agitée de mauvaises pensées, qui a de fortes passions, qui ne voit que le plaisant, la soif grandit fermement. Celui qui se réjouit en subjuguant ses pensées, qui médite sur l'impureté, celui qui est toujours vigilant, celui-là mettra une fin à la soif. À l'aventure et armée de sabres laser, l'équipe des Nouveaux Chemins est Marianne, Padmé Chassor, Colomba, Yoda Grossi, Lucie, Obi-Wan Tardy, Antoine, Annie Ravon et bien sûr Adèle, Padmé Van Rett, avec Midia Dark Portis Guérin à la réalisation, Georges Palpatine Kless à la lecture des textes et à la prise de son dans son Falcon Millennium, Jacques Hubert.
Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine... C'est la guerre. La République croule sous les attaques de l'impitoyable Sith, le comte Dooku. Il y a des héros dans les deux camps. Le mal est partout. Avec une audace stupéfiante, le général Grievous, diabolique chef droïde, est entré dans la capitale pour enlever le chancelier Palpatine, chef suprême du Sénat galactique. Alors que l'armée séparatiste droïde tente de quitter la capitale assiégée avec son précieux otage, deux chevaliers Jedi mène une mission désespérée pour secourir le chancelier captif.
C'est le deuxième volet aujourd'hui de notre série consacrée à la saga « La guerre des étoiles ». Et de guerre, il en est toujours question, comme si elle battait toujours son plein. L'Empire du Bien semble n'avoir jamais existé, les rebelles restent des rebelles, la République est toujours en crise et plane sans cesse l'ombre du mal. Mais si la Force a un côté obscur, elle laisse aussi entrevoir son autre face, un côté lumineux, dégagé, clair, tels les mouvements des Jedi et de leurs sabres laser, jaune, vert, violet et bleu, tel Yoda qui peut bondir à 800 ans à la manière d'un oiseau de branche en branche, tel encore ce double soleil que regarde Luke se coucher à l'horizon. Mais il n'y a pas d'horizon, d'avenir pour tout sage qui se respecte, ni passé, ni présent. Il n'y a pas de bien ni de mal, il n'y a pas d'amour ni de haine. Alors, que reste-t-il à secourir si l'on n'aime plus rien, si l'on ne déteste plus, si l'on ne croit plus, si rien n'a d'importance? Et à quoi bon la force quand on n'a plus de cause à défendre ou de cause tout court?
I don't know. Feel like what?
Like we're being watched.
Oh, wait, put your weapon! I mean you no harm!
Il me semble à quoi?
Il me semble qu'on m'observe.
Cette arme, baisse-la, tant de mal, je te veux. Je me demande, pourquoi tu es là?
Je viens chercher quelqu'un.
Chercher? Tu as trouvé quelqu'un, moi je dirais.
Ne fais pas ça. Hé! Ah non, donne-moi ça.
À moi! Je ne t'aide pas, sinon.
Bon, allez, maintenant, tu t'en vas, mon petit, parce qu'on a du travail, hein?
Non, non, non. Je reste pour t'aider. Trouver ton ami.
Je n'ai pas dit que je cherchais un ami. Je veux trouver un maître Jedi. Oh,
tu cherches Yoda.
Tu sais où le trouver?
Te conduire jusqu'à lui, je puis.
Il est loin d'ici, Yoda. Combien de temps il faut pour y aller?
Pas loin. Yoda n'est pas loin. Patience. Bientôt, tu seras avec lui. Pourquoi veux-tu devenir un Jedi?
Je pense que c'est parce que mon père en était un.
Ah, ton père. Un Jedi très puissant, il était. Un Jedi très puissant.
Oh, allons. Comment connaîtrais-tu mon père? Tu ne sais même pas qui je suis. Oh, je me demande vraiment ce que je fais ici. Nous perdons notre temps pour rien.
Je ne peux rien lui apprendre. Cet enfant n'a aucune patience.
Il apprendra la patience.
Trop de colère en lui. Comme son père.
Étais-je différent quand tu as commencé à m'enseigner?
Oui. Il n'est pas prêt.
Yoda. Je suis prêt, je... Ben, je peux être un Jedi. Ben, dis-lui que je suis prêt.
Prêt, tu crois être. Comment peux-tu savoir? Depuis 800 ans, je forme des Jedi. À mon seul jugement, je me fie pour savoir qui doit être formé. Un Jedi doit avoir l'engagement le plus profond, l'esprit le plus sérieux.
Bonjour Alexis Lavis.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie, spécialiste notamment des philosophies orientales, le taoïsme, le confucianisme et le bouddhisme. Dans la saga Star Wars, l'enseignement de Yoda est un passage marquant, c'est aussi un passage obligé dans la formation de Luke pour devenir un Jedi. Dans l'extrait qu'on a entendu, c'est donc dans l'épisode 5, l'Empire contre-attaque, on entend Luke qui veut devenir à tout prix un Jedi, et Yoda lui répond finalement, on comprend que enseigner, devenir un Jedi n'est pas tant un apprentissage physique qu'un apprentissage spirituel.
Oui, oui, c'est intéressant ce passage de l'Empire contre-attaque, parce que c'est vraiment là qu'au fond, disons, l'influence asiatique un petit peu sur cette trilogie est la plus marquée. Et effectivement, on retrouve dans cette rencontre de Yoda et de Luke Skywalker la fameuse rencontre très traditionnelle dans le bouddhisme notamment, mais dans le taoïsme aussi, du maître et du disciple. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que en réalité, tout l'enjeu, ça n'est pas véritablement la formation elle-même, mais c'est plutôt le commencement. Comment commencer? Dans quelle disposition on est? Et donc effectivement, Yoda, là, prépare en un sens le terrain. Il essaie de voir le terrain, et Luke n'est pas tellement bien disposé, mais d'une certaine manière, Obi-Wan n'a pas tort de dire à Yoda « Moi, j'étais pas tellement différent », parce qu'au fond, on n'est jamais prêt. Et donc, effectivement, on s'aperçoit souvent dans certains récits, je pense au recueil de la Falaise Verte, qui sont un ensemble de récits... où il y a plein d'anecdotes sur les maîtres.
C'est un récit qui a inspiré d'ailleurs George Lucas dans l'écriture de Star Wars.
Ça, il a jamais été explicite sur ça, mais ça circulait. Donc ça avait été traduit, ça circulait. Il y avait les essais sur le bouddhisme zen de Suzuki sur les campus. Salinger en parle, par exemple, dans Franny et Zoé. Ce sont des textes qui sont arrivés dans les années 70. Il y avait des grands maîtres, un autre Suzuki qui enseignait la méditation sur la côte ouest, il y avait Chögyam Trungpa qui enseignait la méditation également dans le Colorado, donc ils étaient tous sensibles à ça, et là effectivement on a typiquement dans cette rencontre entre Yoda et Luke Skywalker la rencontre du maître et du disciple, avec le disciple qui est là avec plein de fantasmes, qui a envie de... Je pense pas que Luke veuille absolument devenir un Jedi. D'ailleurs, il dit « Oui, mon père voulait faire ça ». Paradoxalement, il semble un petit peu loin de ça.
C'est plus une quête de son père qu'une quête de lui de devenir un Jedi, finalement.
Oui, puis il se retrouve embarqué dans quelque chose. On voit bien que dans l'épisode 4, c'est un peu avec son corps défendant. Et c'est finalement ce qui fait la pureté de Luke. C'est que c'était pas un projet si personnel que ça. Il se retrouve embarqué dans une aventure. En réalité, ce qui l'intéresse, c'est sauver la princesse. Et après, de fil en aiguille, il se passe des choses, et puis à un moment donné, il est sur cette planète des glaces, et on lui dit, alors il voit un fantôme de son ancien maître qui lui dit « va voir ». Donc il est vraiment mené vraiment comme ça. Et donc, il n'a pas véritablement ce projet personnel, je vais devenir un Jedi, ça sera moi le plus fort. Donc, il est assez, au niveau de l'ego, il est assez light, on pourrait dire. Et donc, du coup, ça lui confère une certaine pureté et paradoxalement une certaine maladresse aussi, sur laquelle joue Yoda, parce qu'il est pressé, en fait, il veut vite en finir, dire, bon, ça, il faut le faire, parce que j'ai d'autres choses à faire maintenant. Et du coup, effectivement, cette manière de jouer avec l'attente, de jouer avec la question et la réponse, de squeezer, on pourrait dire, tout ça, c'est le premier travail du maître. Vraiment de faire table rase de tout ça et d'être... Le disciple doit être absolument sans attente. Plus il est sans attente, plus il pourra être enseigné.
Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la saga Star Wars, on a deux formations. On a deux Jedi. On a d'un côté, d'abord, Luke, enfin dans le 4-5-6... Dans les épisodes 4, 5, 6, on a Luke qui cherche Yoda pour être formé, même si c'est un peu par hasard qu'il se retrouve embarqué dans cette histoire. Il va quand même à Dagobah pour rencontrer Yoda et être formé. Et puis il y a son père, Anakin, donc ça c'est les épisodes 1, 2 et 3, qui lui pour le coup est repéré par Qui-Gon Jinn. Alors que lui pour le coup il a 6 ans il veut partir. Il veut faire quelque chose, on sent qu'il a du potentiel, mais en revanche, il n'a pas cette volonté, comme l'a lu quand même, de s'embarquer dans un projet.
Oui, tout à fait. Effectivement, c'est, dans les deux cas, c'est un inconnu, cette force, cet ordre des Jedi, ils le savent pas. Néanmoins, on note quand même, et c'est pas trop mal mis en scène, une ambition. C'est quand même et même Luke est ambitieux, je trouve moins que son père. Puisque il veut devenir pilote, il veut partir de ce bled, c'est une planète bled.
Oui, c'est ça.
Donc il veut vraiment quitter sa province, monter à la capitale, comme on dit. Et les deux ont ça en commun, c'est vrai. Et donc il y a une ambition de s'en sortir. C'est vraiment, même au sens littéral, de sortir de la planète. Et en plus, c'est la même planète. Il y a effectivement chez Anakin, et ça c'est pas trop mal mis en scène, bon, évidemment c'était logiquement déjà orienté, mais il y a une espèce de fin, vous avez lu un extrait des Dhammapada du Bouddha, et on sent une espèce de fin, même presque de rage.
De soif.
Oui, de soif de quelque chose qui le laisse assez peu disponible au fond Anakin. Je trouve que Luke a un côté maladroit, qui fait un côté un peu Perceval, qui lui donne une certaine pureté. Et pour le coup, ça c'est aussi assez joliment asiatique, cette manière. Donc le disciple, plus il est nul, plus c'est bien. Parce que finalement, il évitera de fantasmer avec trop d'effets spéciaux.
Celui qui s'abreuve profondément au Dhamma demeure en bonheur. Avec son cœur clarifié, le sage constamment se réjouit dans le Dhamma. Les irrigateurs conduisent les eaux, les faiseurs de flèches façonnent les flèches, les charpentiers courbent le bois, les sages se contrôlent eux-mêmes. De même qu'un roc solide n'est pas ébranlé par le vent, ainsi le sage n'est pas agité par la louange ou par le blâme. Ainsi qu'un lac profond, clair et tranquille, le sage devient parfaitement clarifié en entendant le Dhamma. L'homme excellent abandonne l'attachement pour toute chose. L'homme pur ne bavarde pas avec des pensées de désir. Atteint par le bonheur ou par la souffrance, le sage ne montre ni exaltation ni dépression. Ni par égard pour soi, ni par égard pour un autre, un sage ne doit faire aucun mal. Il ne doit pas désirer des fils, des richesses, un royaume en faisant le mal. Par des moyens injustes, il ne doit pas désirer le succès. Alors, un tel homme est vraiment éthique, ayant la connaissance transcendante dharmique. L'homme sage doit abandonner les états sombres et cultiver les brillants. Il doit chercher un grand délice dans la retraite, si difficile à goûter. Abandonnant les plaisirs sensuels, sans empêchement, l'homme sage doit se nettoyer lui-même des souillures du cœur.
Premonitions? Premonitions? These visions you have.
They're of pain, suffering.
Prémonition? Prémonition? Ces visions que tu dis avoir...
Toujours la peine, la souffrance, la mort.
De toi-même, tu parles, ou d'une personne que tu connais?
D'une personne
proche de toi?
Oui.
D'une grande prudence, tu dois faire preuve pour pressentir l'avenir, Anakin. La peur de perdre l'autre mène au côté obscur.
Cette fois, je ne laisserai pas ces visions se réaliser.
La mort est un élément naturel de la vie. Réjouis-toi pour tous ceux autour de toi qui retournent à la force. Ni les pleurer, ni les regretter, tu ne dois. L'attachement mène à la jalousie. À l'ombre de la convoitise, il grandit.
Que dois-je faire alors, Maître Yoda?
Exerce ta volonté à renoncer à tout ce que tu redoutes de perdre un jour.
Alexis Lavis, on a entendu tout d'abord un texte extrait des dits du Bouddha, puis ensuite un extrait, là pour le coup, on n'est plus entre Luke et Yoda, on est entre Anakin, c'est un dialogue entre Anakin et Yoda, c'est l'épisode 3. Anakin confie à Yoda sa peur de perdre quelqu'un de proche. Effectivement, Yoda lui dit, un Jedi finalement doit être détaché de tout. Et ce qui est intéressant dans cet extrait, au-delà de cette dimension dont on va parler, on n'a pas encore évoqué déjà le personnage attachant qu'est Yoda. C'est-à-dire que c'est quand même un appui, un repère. Et puis il y a quand même cette manière de parler de manière inversée qui est très marquante et qui donne tout de suite à ses paroles une dimension prophétique, voire performative.
Oui, c'est vraiment la figure du sage. Déroutante, c'est-à-dire que qui résiste au calcul, puisqu'on a une espèce de crapaud vert avec des oreilles curieuses, et qui en même temps a l'air d'avoir 30 000 ans et qui bondit comme un cabri.
Ça, on le voit plus dans la prélogie pour le coup.
Oui, parce qu'il est en fin de carrière dans la première trilogie, dans le 4, 5, 6. Mais par exemple, le fait qu'il bondisse plus. Est soutenu dans le 4-5-6 par un humour souvent quand il joue l'autochtone de Dagobah qui cherche à bouffer ou qui cherche à des outils ou des choses comme ça et je pense qu'effectivement l'une des figures du sage, enfin en tout cas un marqueur du sage, c'est le fait qu'il déjoue tout le temps les attentes et qu'il déjoue toujours les choses prépensées. Au fond, on a gardé ça avec Socrate toujours déjoue le prémâché de la pensée et reprend toujours à neuf quelque chose. Donc ça, il y a toujours un goût de nouveauté. Mais le sage en Asie, c'est exactement pareil. Il est là pour... c'est un élément de vie très profond. Donc du coup, c'est toujours insaisissable. Et c'est à la fois inattendu et en même temps totalement toujours à sa place. Et ce qu'il dit à Anakin doit être dit à Anakin. Même. Donc il y a un côté un peu plan-plan, oui, tu dois renoncer. Mais en même temps, la façon dont il le dit, dont il l'amène, ça reste vivant, ça reste réel, parce que c'est très réel. Et il a bien raison, en plus. Si il continue à se crisper le poing fermé sur l'amour qu'il a pour sa femme, il va faire n'importe quoi, et comme par hasard, il fait n'importe quoi.
Et alors à quoi doit renoncer précisément Anakin pour devenir un Jedi?
Il doit renoncer à lui. Et ça, c'est le leitmotiv de toute pensée, de toutes les pensées, donc taoïsme et bouddhisme confondus, c'est une absence d'égologie. Donc le sage, et au fond, la lecture des Dhammapada le montre d'une certaine manière, le sage, c'est celui qui est insensible à la louange ou au blâme. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire simplement qu'il est pas, il n'est pas dans ce que j'appelle l'égologie, c'est-à-dire la logique du moi, moi-même, encore moi. Donc du coup, il est passé à autre chose, il est à l'écoute d'autre chose. Et dans Star Wars, c'est la force. Donc il est à l'écoute d'un certain type d'équilibre, de tension, de relâchement, qui dépasse, on pourrait dire, l'horizon de la conscience individuée.
Alors on a entendu dans le texte lu par Georges Claise, donc dans les dits du Bouddha, la fin du texte est dit « Abandonnant les plaisirs sensuels, sans empêchement, l'homme sage doit se nettoyer lui-même des souillures du corps ». Alors toute l'idée de se débarrasser, de pratiquer une sorte d'ascèse charnelle, c'est quelque chose qui est assez commun, enfin assez classique en philosophie. Ne pas être effectivement parasité par des plaisirs, par des douleurs, etc. Mais en l'occurrence, ce qui est un petit peu compliqué à comprendre avec la figure d'Anakin, c'est qu'il ne doit pas seulement renoncer à l'amour de sa femme ou au plaisir charnel ou même à l'amour de lui-même, mais renoncer à lui tout court. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on désigne Anakin dans le même temps comme l'élu, celui qui va rééquilibrer la Force ?
Ça, après, c'est le choix du... Faut pas oublier que c'est une histoire racontée par quelqu'un. Donc il décide de raconter comme il veut. C'est pas toujours cohérent jusqu'au bout. La thématique de l'élu, ça répond à une structure mythique très très connue. On sait que voilà, Joseph Campbell a été l'un des profs de Lucas, donc il connaît très bien les structures mythiques. Il faut un élu, il faut la thématique de l'élection. Bon.
Mais au-delà de ça, c'est intéressant de poser la question de se détacher de soi, tout en étant tourné uniquement vers soi-même.
Ah oui, oui. Tout à fait. Mais ça n'est pas parce que... Et ça, là, le bouddhisme avait été assez clair comme ça. Ça n'est pas parce que on est libéré de soi qu'on n'existe plus. C'est simplement que le rapport à soi est plus libre. Donc, on peut écouter autre chose que cette espèce de peur presque animale qui nous fait nous crisper, toujours surtout, cette peur de une espèce de logique de survie qui reste à des niveaux très profonds de la personnalité ou de la structure psychique. Et donc c'est ce qu'on appelle un espèce de gigantesque tirage de couverture en permanence. Toujours ramener l'ensemble des expériences que l'on fait à un point de mire toujours plus ou moins clair qui s'appelle moi. Et en réalité, voilà, c'est ça qui doit être coupé. C'est ça qu'il faut faire dérailler ça. C'est pour ça que je parle d'égo logique. C'est pas du tout réel, c'est juste une manière de penser, c'est juste une logique égologique. Voilà.
Et est-ce qu'on peut dire que quand même que Yoda, finalement, même si c'est un maître Jedi, même s'il représente le sage dans Star Wars, est-ce que Yoda n'a pas peur finalement face à Anakin ? Dès le début, il ne veut pas finalement que Anakin soit formé, devienne maître Jedi. Il dit que brumeux son avenir est, et effectivement, c'est ce qui va se passer. Il a vu juste. Est-ce qu'il ne craint pas, Yoda, ce qui va se passer ?
Mais curieusement, je pense que le seul qui craigne rien, c'est Yoda. Tous les autres ont peur de quelque chose. Même Qui-Gon Jinn, qui se crispe, qui veut absolument former Anakin, il a peur de passer à côté de l'élu. Même Mace Windu, par exemple, la manière dont il regarde Anakin, lui aussi voit qu'il y a quelque chose qui est de traviole, et lui, il veut absolument...
Et Obi-Wan, qui reprend d'ailleurs...
Et Obi-Wan qui a une...
Qui va le former.
Et puis c'est l'héritage de son maître, il a un rapport de vénération et d'amour très profond pour son maître, Obi-Wan, donc il forme Anakin... Malgré tout, sans y être, lui, il a été beaucoup moins sensible à la rencontre avec Anakin petit. Il reste un peu en retrait, il regarde les choses d'un peu de loin. En plus, il respecte beaucoup Yoda, donc il respecte son avis. Néanmoins, son maître, en mourant, lui dit « forme le petit ». Alors, bon, voilà, par dévotion, il se retrouve avec le paquet. Et donc, c'est un peu compliqué pour lui. Mais le seul qui a un rapport, au fond, le plus libre avec Anakin, c'est Yoda. C'est-à-dire, pourquoi ? Parce que, oui, ça va être une tragédie, il le voit bien. Bon, bah... C'est-à-dire que lorsqu'on est libéré...
Lui-même a renoncé à agir...
À la maîtrise de tout. Et c'est ça, au fond, qui fait la grande différence entre le côté lumineux et le côté obscur. Le côté obscur voit dans cette écoute de la Force, entre guillemets, l'occasion d'une saisie. C'est-à-dire qu'on va saisir avec des mains encore plus grosses. Alors que, pour le côté lumineux, on voit dans cette écoute d'une mouvementation beaucoup plus ample que nous, l'occasion d'un dessaisissement.
Tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je m'électrocutais. Et j'ai rencontré une fille en forme de fée, tellement nerveuse que lorsqu'elle griffait, mon dos, ma peau se transformait en pyrogravure.
Écoutez France Culture, semaine spéciale héros, et pour ce deuxième volet de notre série d'émissions consacrée à Star Wars, j'ai le grand plaisir d'accueillir Alexis Lavis, qui a contribué au hors-série Philosophie Magazine, enfin qui a donné un entretien pour le hors-série Philosophie Magazine avec qui nous sommes en partenariat, et qui vient aujourd'hui nous parler de la philosophie des Jedi.
Un peu trop longtemps et encore, oh,
Préserver et nourrir son âme, embrasser l'unité. Peut-on faire qu'elle ne s'éloigne pas? Concentrer ses souffles, se rendre entièrement souple. Peut-on être tel un nouveau-né? Nettoyer et purifier le miroir mystérieux, peut-il être sans tache? Aimer le peuple et tenir le pays dans l'ordre, peut-on le faire sans intelligence? Tenir la porte du ciel ouverte ou fermée, peut-on être tel une femelle? Comprendre clairement les quatre limites du monde, peut-on le faire sans agir? Elle les engendre et les nourrit, elle les engendre, mais sans les posséder. Elle agit sur eux, mais sans s'en prévaloir. Elle les fait croître, mais sans les commander. C'est ce qu'on nomme l'efficience mystérieuse.
We'll never get it out now.
So certain are you? Always with you, it cannot be done. Do you nothing that I say?
Oh, le vaisseau, nous ne pourrons plus le récupérer.
Quelle certitude as-tu? Avec toi, rien n'est jamais possible. N'écoutes-tu pas ce que je dis?
Mettre faire bouger des pierres, c'est une chose, mais ça, c'est totalement différent.
Non, pas différent, juste différent dans ton esprit. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris.
Très bien, je vais essayer.
Non, n'essaie pas. Fais-le, ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai.
C'est trop gros. J'y arriverai pas.
La taille importe peu. Regarde-moi. Est-ce par ma taille que tu peux me juger? Eh bien, tu ne le dois pas. Car mon allié est la force. Et c'est de mes alliés la plus puissante. La vie l'a créée. L'a fait grandir. Son énergie nous entoure et nous relie. Nous sommes des êtres illuminés, pas une simple matière brute. Tu dois sentir la force autour de toi, ici, entre toi, moi, l'arbre, la roche, partout. Oui, oui, elle est même entre le sol et le vaisseau.
C'est impossible.
Alexis Lavis, en arrivant sur Dagobah, Luc tombe avec son vaisseau dans un marécage, il est embourbé et il rencontre Yoda. Yoda qui lui dit que finalement, ce n'est pas la force physique qui va lui permettre de sortir son vaisseau de ce marécage, mais seulement une sorte de force spirituelle, ce qu'il décrit comme une force qui, une sorte de fluide qui passe entre les choses et qui n'est pas du tout réductible à une simple matière brute. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit comprendre la force quand on entend par exemple que la force soit avec toi?
Et non. Je crois pas qu'il faille l'entendre comme ça, même si encore une fois, voilà, c'est un film pour divertir aussi, donc il faut pas chercher trop loin les choses, sinon ça serait hors de propos, mais c'est une force, et le mot force d'ailleurs, je crois que votre invité hier en a parlé très justement, c'est un mot emprunté à la physique newtonienne.
Complètement indéterminé,
mais comme l'était le mot force chez Newton, hein, relisé par les principes de philosophie naturelle, c'est ce qui se passe, on ne sait pas trop ce que veut dire ce mot force, néanmoins ça se manifeste de deux façons, comme la gravitation, attraction, répulsion. Et effectivement ça se montre comme ça dans le film, parce qu'on attire les vaisseaux ou alors on les repousse. Donc c'est très matériel. Imaginez, le magnétisme, les forces magnétiques sont des forces tout à fait matérielles. C'est pas parce que c'est invisible que c'est immatériel.
Effectivement, il y a un effet matériel clair. On voit le vaisseau. De toute façon, dès que les Jedi utilisent leurs forces, on voit l'effet effectivement d'arrêter les objets, d'arrêter quelqu'un, ou à l'inverse de les attirer vers eux. Mais néanmoins, est-ce qu'on peut véritablement réduire la force à cette dimension physique?
Eh bien précisément non, parce que justement Yoda n'en parle pas, c'est pour ça qu'il dit à un moment nous sommes des êtres illuminés et pas seulement des morceaux de bois, si vous voulez, morts, parce que précisément c'est lié à la vie. Et là, effectivement, il y a quelque chose, on quitte le terrain de la physique moderne pour aller vers quelque chose comme le taoïsme. On sait que effectivement Lucas avait lu Les secrets de la fleur d'or, qui était un texte taoïste qu'aimait beaucoup Carl Gustav Jung, qui traînait aussi encore beaucoup sur les campus. Et là, on a effectivement ce qu'on appellerait le vitalisme propre au taoïsme, c'est-à-dire que c'est ni l'esprit désincarnée, ni la matière brute absolument idiote, c'est cet entre-deux qui fait circuler les choses. Ce qu'est la vie, c'est ça la vie. Et il le dit bien, ça nous entoure, ça nous relie, et ça anime. Donc c'est très beau que le mot âme, l'anima, c'est d'abord un principe d'animation. C'est ça la force, ça anime le monde. Oui.
On a entendu juste avant l'extrait un extrait du Tao Te Ching de Lao Tzu. Dans ce texte, le texte finit par nommer en fait. Alors là, ça n'a pas le terme de force, mais c'est l'efficience mystérieuse qui engendre, nourrit, qui engendre sans posséder, qui agit mais sans s'en prévaloir, qui fait croître sans commander les choses. Finalement, on retrouve le principe de la force telle qu'elle est montrée, en tout cas dans Star Wars.
Ah ça c'est, on le sait, on fait vraiment tout ça c'est su effectivement. Le Tao Te Ching de Lao Tzu était un des livres vraiment d'influence très réelle aux États-Unis à cette époque-là. Il en compte énormément de traductions. Et encore une fois, ce qui est intéressant, qu'est-ce que c'est qu'une efficience mystérieuse? C'est tout bête, ça veut dire simplement il n'y a pas d'auteur.
Parce que... On retombe en fait finalement entre le taoïsme et le bouddhisme dont on parlait tout à l'heure sur l'idée de se débarrasser de ce que vous appelez une égologie.
Oui, mais mystérieux, ça veut dire qu'on ne peut pas identifier. Mais c'est quoi le principe d'identité? C'est le moi. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement abandonner l'idée d'auteur. On abandonne les droits d'auteur, si vous voulez. C'est ça tout le principe des choses. Et quand on pousse la logique jusqu'au bout, on comprend comment un espèce de nain vert arrive à soulever un vaisseau. Il n'y a pas d'auteur, c'est pas lui qui soulève le vaisseau.
Et Luc, pourquoi c'est tout l'univers.
Oui, pourquoi Luc n'y arrive pas? Parce que lui veut soulever le vaisseau avec ses petits bras musclés. Mais il ne peut pas. Et c'est pour ça qu'il dit « je ne peux pas ». Oui, « je ne peux pas », »,« je ne peux pas », c'est vrai.
Yeah. Ça suppose de repenser même la manière de parler finalement. Alors on a dit que Yoda effectivement inversait le langage, on retrouve cette manière de dépersonnaliser le rapport au monde dans cette manière-là de parler.
Tout à fait. La langue de Yoda est une langue qui veut briser effectivement quelque chose ou qui témoigne d'une situation moins égologiquement marquée au monde. Et c'est intéressant que effectivement ça se marque dans la langue et que c'est une langue qu'on comprend tout à fait et qui néanmoins détruit la syntaxe habituelle qui est une syntaxe égologique. Il faut un sujet, il faut un verbe, il faut un complément. C'est-à-dire qu'il faut le sujet, c'est-à-dire c'est ce qui soutient le sens de la phrase. Et en Occident, le sujet, c'est moi.
Alors effectivement, Star Wars, ça reste des films, hein, comme vous l'avez dit. L'idée n'est pas forcément de plaquer à tout prix le taoïsme ou le bouddhisme ou d'essayer de voir de quelle manière ils sont ressaisis. Mais il y a quelque chose d'intéressant, effectivement, dans ce mélange entre les influences orientales et, pour le coup, cette espèce de grosse machine occidentale qu'est Star Wars. C'est la manière dont la force, donc ça c'est dans la prélogie, donc dans les épisodes 1, 2 et 3, redevient quelque chose d'individuel et quelque chose de physique. Donc, à savoir que Anakin est repéré par Qui-Gon et il repère, comme il le dit, c'est la traduction des sous-titres, une vergence de midi-chloriens dans ses cellules. Donc là, en fait, effectivement, la force est complètement et détectable à l'œil, comment dire, pas à l'œil, mais de manière biologique.
Oui, oui, là, c'est chasser le naturel, il revient au galop. Effectivement, on a... La différence entre le 4, 5, 6 et le 1, 2, 3, c'est cette interprétation biologique de la vie. Parce que la biologie, c'est une interprétation de la vie. Et une interprétation relativement technique de la vie, avec tout ce que ça engendre de difficultés. Moi, j'ai été très, très, très embêté quand j'ai, dans ce passage, effectivement, de l'épisode 1, où ils sont à bord d'une terrasse, ça a l'air tout à fait sympa la soirée. Et il fait une prise de sang et il lui dit son taux de midi-chlorien est vachement élevé. Est-ce que tu crois que c'est lui l'élu? Et là, je me dis, mais Troisième Reich, nous voilà. Parce que c'est ça.
Il y a un côté très eugéniste.
Ah bah oui. Et on sait que les États-Unis ont été particulièrement sensibles à l'eugénisme. Donc on est un peu inquiet. On se dit quand même, voilà, chasser le naturel, il revient au galop. Et qu'est-ce que c'est que le nazisme? C'est une interprétation biologique de l'identité.
Mais effectivement, ça ne suffit pas parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, Yoda veille et effectivement, il est aussi en fait ce qui incarne tout le temps parmi au cours de ces 6 épisodes le garant d'une forme, d'une dimension spirituelle de la Force. Mais il y a quand même une question qui se pose avec ce côté justement, donc la prise de sang, quelque chose de biologique, qui est même aussi à un niveau individuel. On a parlé effectivement du côté Anakin est un élu, ça on repersonnalise la Force. Il y a quand même cette idée de, dans l'apprentissage du Jedi, alors comment s'acquiert la force? Est-ce que c'est déjà quelque chose qu'on a en soi? On a une sorte de prédisposition? Sans spoiler, le septième épisode qui est sorti la semaine dernière, on rencontre un personnage qui a encore une prédisposition à avoir de la force sans avoir été formé à ça. Donc il y a bien quelque chose en fait, la force, est-ce que c'est un principe immanent qu'on a en soi ou alors transcendant et qui nous vient d'un maître?
Ben, ça, avec le 1, 2, 3, ça devient un principe individuel lié à une composition physique particulière. Donc c'est pas très intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement dans le 4, 5, 6 et dans l'épisode 7, on retombe un peu sur des choses plus sensées, où il y a une tension entre est-ce que c'est moi qui suis sensible à la force ou c'est à l'occasion d'une rencontre que je me rends compte que j'ai un rapport à la force. Et je pense que moi je pense que c'est en réalité la rencontre qui fait que, parce que dans une rencontre vous vous découvrez vous-même par les yeux d'un autre, par les attentes d'un autre, et donc vous ouvrez un continent qui n'était pas le vôtre et qui pourtant va vous concerner. Et comme par hasard, effectivement, que ça soit chez Luke Skywalker ou dans le nouvel épisode,
ou avec Anakin, d'ailleurs.
Ou avec Anakin, c'est toujours une rencontre. Donc vous êtes à un moment donné, pardon, vous êtes à un moment donné regardé tout autrement. Et ça vous fait être tout autrement. Et c'est ça. Ouais, si on était phénoménologue, on dirait, peu importe ces histoires de bric-à-brac, de cellules. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se montre? Eh bien, une personne qui voit une autre personne différemment qu'elle ne s'était vue. Et ça change tout.
Anakin, you know I'm not able to rely on the Jedi Council. If they haven't included you in their plot, they soon will.
Anakin, tu sais que je ne pourrai jamais me fier au Conseil des Jedi. S'ils ne t'ont pas encore impliqué dans leur complot, ça ne saurait tarder.
Je ne suis pas sûr de bien comprendre.
Je suis persuadé que toi aussi tu pressens ce que j'en suis venu à soupçonner. Le Conseil des Jedi a décidé de prendre le contrôle de la République. Il s'apprête à s'en prendre à moi.
Je doute que ce soit...
Anakin, écoute ton intuition. Tu le sais, n'est-ce pas?
Je sais qu'il se méfie de vous.
Et du Sénat. Et de la République. Et de la démocratie par-dessus le marché.
Je dois l'admettre. Ma confiance en eux est un peu ébranlée.
Pourquoi? Ils t'ont chargé d'une mission que tu perçois comme profondément déloyale. Ils t'ont chargé de m'espionner, c'est ça?
Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire.
Remémore-toi ce qui t'a jadis été enseigné. Quiconque détient un pouvoir a peur de le perdre. Ça vaut pour les Jedi.
Les Jedi sont au service du bien.
Le bien est une question de point de vue, Anakin. Les Sith et les Jedi sont similaires. Ils se ressemblent quasiment en tout point. Y compris dans leur quête d'un plus grand pouvoir.
Les Sith cultivent la passion de la force, rien d'autre. Et ils sont tournés entièrement vers eux-mêmes.
Ah oui, parce que les Jedi sont différents.
Les Jedi sont désintéressés. Ils pensent d'abord aux autres.
Alexis Lavis, on vient d'entendre un extrait de l'épisode 3, donc de la prélogie. C'est un dialogue entre Anakin et Palpatine qui essaye de le détourner de la voie des Jedi en instillant en lui le doute sur les intentions si pures des Jedi. Et finalement, la question se pose. Dans la prélogie, les Jedi sont un ordre qui a de la puissance et qui est au service de la République. Jusqu'à quel point les Jedi peuvent-ils mêler leur pouvoir spirituel rituel à un pouvoir temporel sans se corrompre?
Eh bien, c'est toute l'histoire, c'est toute l'affaire, si vous voulez. Après, l'opposition spirituelle temporelle, même si elle est présente dans l'exalogie, elle n'est pas si prégnante que ça, puisqu'ils sont déjà au monde. Ils sont l'ordre est déjà là, et c'est un ordre gardien, c'est une sorte de conseil des sages, et ça a toujours existé dans les formes politiques. Il y a toujours des gardiens de la Constitution, d'un conseil des sages, là qui est mêlé à une force...
Mais ils ont une sorte de pouvoir surplombant, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils peuvent juger des bonnes ou mauvaises actions. Or, en fait, ils sont quand même de parti pris dans cette affaire. Ils sont déjà pour la République.
Oui, tout à fait. Et ils sont pour la République dans une certaine mesure, parce que en même temps, je pense pas qu'ils disent amen à tout. Ils ont une forme d'indépendance et en même temps, ils ne prennent pas les décisions politiques, parce qu'ils n'appartiennent pas au Sénat.
Enfin, ils sont tout le temps en train de parler avec la reine Padmé, donc interprétée par Natalie Portman. Et effectivement, ils ont quand même un pouvoir. Leur force spirituelle leur donne aussi un pouvoir sur les décisions politiques. Et effectivement, c'est aussi une question que pose Star Wars, à savoir l'articulation entre un pouvoir spirituel et un pouvoir temporel. Jusqu'à quel point on peut mêler les deux ?
Bah, et un pouvoir qui n'aurait pas d'idées, qui n'aurait pas de compréhension, de vision, ce serait un drôle de pouvoir. C'est un pouvoir qui chercherait simplement à s'auto-engendrer, ce qui est du nihilisme absolu. Donc non, enfin que moi ça me choque pas trop. Il y a toujours eu dans les formes politiques ce qu'on appelle le problème du sage en politique. Quel est son statut? Est-ce qu'il doit diriger? Est-ce qu'il doit pas diriger? Là, Star Wars propose une alternative. Si vous voyez, il met le sage à une certaine place que je trouve pas si mal. C'est-à-dire que il y est sans y être trop. Effectivement, il a du pouvoir, il a un pouvoir de vision, il a même un pouvoir réel parce qu'il peut intervenir diplomatiquement. C'est plutôt une force diplomatique d'ailleurs, on voit.
C'est vrai.
Diplomatie plus ou moins musclée, ça dépend de la situation. Mais donc, moi j'ai trouvé ça assez harmonieux finalement comme manière de faire. Et la corruption, elle vient pas tant que ça du sein de l'ordre Jedi. Disons que dans le 1-2-3, on voit un ordre Jedi bien établi, ça roule. Moi, je trouve que ça roule bien, tout le monde est à sa place, tout le monde, ils ont un beau temple, bien assis, ils ont des beaux sièges.
Ils ont une belle vue.
Ouais, ils ont une très belle vue, on sent, bon, voilà, c'est bien institué, ça roule. Juste, rien de dur. Donc, du coup, il y a un moment donné, il y a quelque chose qui grippe. Il y a effectivement le cas d'Anakin qui vient faire exploser une mécanique qui était finalement bien huilée. Palpatine qui corrompt le Sénat, Anakin qui corrompt sans le vouloir l'ordre Jedi, les deux ensemble, ça fait tout exploser. Mais on n'a pas dans le film l'idée que l'ordre Jedi aurait lui-même, en lui-même, nourrirait une sorte d'ambition hégémonique. Je pense pas. Vraiment, c'est pas dit dans le film. Et je pense que c'est vraiment de la manipulation grossière de la part de Palpatine pour. On a l'impression de regarder un discours du FN. Ouais. C'est nous les méchants, oui, mais regardez les autres, ils sont méchants aussi. Alors, si les autres, ils sont méchants, nous, on n'est peut-être pas si méchants que ça. C'est toujours un peu cette logique un peu coconne. Et d'ailleurs, ça m'étonne que Anakin soit sensible à ce genre de discours qui est un...
Bah, il est un peu concon.
Il est un peu concon, peut-être, oui.
D'accord. Donc, revenons sur un autre moment de l'extrait. Le moment où, effectivement, Palpatine... de manière un peu bébête, parle effectivement du bien et du mal comme une question de point de vue. On revient sur l'indétermination de la force qui effectivement, comme le disait notre invité hier, Pierre Judet de la Combe, peut aller d'un côté comme de l'autre, d'un côté obscur comme du côté lumineux. Mais c'est quand même une manière très intéressante aussi de poser cette question de la force qui peut prendre n'importe quelle forme, et puis aussi de la lier au la manière en fait dont elle est utilisée. À défaut de poser la question de la manière dont est mêlé le pouvoir spirituel et temporel, c'est intéressant de voir quel usage on fait de la force. C'est-à-dire, en gros, elle est une arme pour avoir quoi ? Pour défendre quoi ? La question se pose finalement. La force est toujours au service de quelque chose, dans un sens très usuel. Ça veut même, c'est même, on a besoin de la force pour détruire des choses. C'est ou pour se servir des choses. On utilise des choses. C'est un moyen. C'est un instrument avant tout. Or là, on retombe sur cette dimension instrumentalisée de la force.
Et ça, j'étais moins d'accord, moi, avec votre invité, donc, d'hier. La force, elle est ni d'un côté, ni de l'autre. Le côté.
En tout cas, elle est peut-être sûrement des deux côtés et on sait la manière
dont on la
regarde.
Elle est d'aucun côté. Elle est d'aucun côté. C'est simplement le rapport qu'on a avec elle qui change la donne. Mais, je sais pas si ça, c'est même pas un outil, comment vous voulez. Un outil, il faut quand même l'avoir dans la main. Non, c'est que le vent, c'est pas un outil, le vent, si vous voulez. Vous pouvez avoir un certain rapport au vent. Et un autre rapport au vent, si vous voulez, mais ça ne change rien à la nature du vent. si vous l'utilisez pour faire de l'énergie électrique ou alors pour parce que ça sèche vos cheveux. Vous voyez, ça n'a pas de le vent est complètement pur du rapport que vous avez à lui. Donc la force c'est un peu ça. Elle reste mystérieuse du début à la fin, c'est-à-dire sans auteur du début à la fin. Et ce qui est vu, c'est soit une crispation, une volonté de maîtrise, et donc on nourrit la bête, ça c'est le côté obscur, soit on se met à l'écoute de ça, on se libère, on se détend dans quelque chose, on n'est pas l'auteur de tout, et du coup on fait du surf. Vous voyez, les grands Jedi sont des surfeurs de la force. Mais un surfeur, il ne maîtrise pas la vague.
Et la question que je me suis posée en regardant notamment les formations d'Anakin, et puis bon, surtout de Luke, c'est quand même cette idée de se battre sans haine et sans amour. Comment on peut utiliser véritablement, comment on peut s'engager dans un combat sans avoir un engagement de soi qui tende vers un but sans amour? C'est-à-dire on se bat pour sauver quelqu'un, Luke se bat pour sauver Leia, Anakin se bat pour lui avant tout. C'est quand même très difficile de manière en général d'envisager qu'on se batte comme ça, sans cause finalement.
Mais une tempête n'a pas d'auteur, si vous voulez. La tempête, c'est pas quelqu'un, c'est pas un barbu qui souffle. Elle est où la tempête, oui. Et pourtant, il y a bien. C'est-à-dire qu'on confond l'auteur et la situation, mais encore une fois, c'est ça l'égologie. C'est-à-dire qu'il y a une situation.
Donc, par exemple, si Anakin fait n'importe quoi, c'est pas Anakin finalement, c'est la situation.
Oui, en un sens, oui. Mais il se crispe en voulant ramener absolument la situation à lui. Donc, du coup, ça change la situation.
Alors que s'il avait fait n'importe quoi en disant...
Quand on est profondément en rapport à la situation, on ne fait pas n'importe quoi. On est en rapport à la réalité. La réalité, c'est simplement des relations et des situations. Et après, dès qu'il y a interprétation, c'est-à-dire qu'est-ce que j'en pense, comment je me situe par rapport à ça, est-ce que je vais avoir mon avantage ou est-ce que je vais avoir mon désavantage, là, ça change la donne.
In the name of the Galactic Senate of the Republic... You're under arrest, Chancellor.
Vous êtes en état d'arrestation, Monseigneur.
Anakin, je t'avais dit qu'ils iraient jusque-là. J'avais raison. Les Jedi prennent le pouvoir.
L'oppression des Sith est définitivement révolue. Vous avez perdu.
Anakin, si tu hésites, il sera trop tard.
C'est terminé.
Je n'ai plus la force. Ne me tuez pas. Pitié.
C'est contraire à la règle Jedi. Ne le tuez pas.
Ayez pitié.
J'ai besoin de lui.
Pitié, non, non, non. Qu'est-ce que j'ai fait?
Tu accomplis ton destin, Anakin. Deviens mon apprenti. Je t'enseignerai le côté obscur de la force.
Lorsqu'on envisage de s'emparer du monde sous le ciel et qu'on agit pour cela, j'observe qu'on n'y arrive jamais, voilà tout. Car le monde sous le ciel est un vase sacré sur lequel on ne peut pas agir. Agir, c'est échouer, saisir, c'est perdre. À Alexis Lavis, on vient d'entendre un extrait de la fin de l'épisode 3 de Star Wars, évidemment. Donc là, c'est le début du chaos, en fait. C'est la scène dans laquelle Anakin en vient à tuer Mace Windu, donc interprété par Samuel L. Jackson. Influencé qu'il est par Palpatine, alors pour toutes sortes de raisons, naïveté, problème d'ego, incapacité à finalement être un Jedi complètement détaché.
Ah, mais même amour, parce que c'est ça une vraie tragédie, c'est que on y va comme on peut, innocemment. C'est un chic type, Anakin, moi, ça aurait été un bon pote, si vous voulez.
Ah oui?
Ouais,
pas trop.
Ah, moi, je le trouve touchant, moi. Il a une espèce d'arrogance jolie. Il veut se tenir. Il veut aimer. Il est vivant quand même. C'est quelqu'un de vivant quand même. Donc et qui se trompe et qui voilà.
En tout cas, il a cet intérêt entre guillemets de bien mettre au jour les tiraillements effectivement entre se débarrasser de tout et effectivement être quelqu'un, parce qu'en fait il veut s'en sortir aussi. Oui. C'est ça le problème, et il veut être quelqu'un et en même temps il veut être Jedi, ce qui est complètement
contradictoire.
Et en même temps, il y a aussi autre chose qui met au jour avec cette figure de Mace Windu, qui est quand même un petit peu, on parlait tout à l'heure de l'articulation entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel, mais effectivement quand on est un Jedi, il pose la question de à la fois s'inscrire dans le cosmos, tenir sa place, et en même temps n'être tourné que vers soi-même. Et effectivement, il y a cette articulation entre, comment dire, collectif, politique, au-delà des intrigues politiciennes, et en même temps être tourné vers soi-même, qui pose un problème. Comment on arrive à tenir les deux, finalement? Comment on arrive à la fois à tenir sa place et en même temps à faire une expérience directe de la liberté, non soumise à des règles extérieures?
Celui qui y arrive, c'est Yoda. En réalité, il n'y en a qu'un qui y arrive, vraiment, c'est Yoda. Par exemple, Qui-Gon Jinn, dans le 1, c'est un personnage très touchant, parce qu'il a cette liberté, et on sent en lui...
D'ailleurs, il veut que Anakin devienne son padawan, alors qu'en fait, il s'oppose au conseil, finalement.
Il s'oppose au conseil, mais, par exemple, dans l'épisode 5, Yoda dit très clairement, je forme des Jedi depuis 800 ans, je ne me fie qu'à mon jugement. Il le dit aussi, lui. Qui-Gon dit la même chose, dit, vous n'êtes pas d'accord avec moi, je me fie à mon jugement. Et c'est pour ça qu'il ne l'empêche pas.
Merci beaucoup Alexis Lévis, je suis désolée, j'ai pas vu l'heure passer finalement. Vous vouliez ajouter un dernier mot sur Mace Windu ou Anakin?
Non, c'est toujours le rapport à la règle, si vous voulez. Windu, il a un côté magistrat, c'est le patron un peu, donc il tient la règle. Et ça aussi c'est de la non-écologie, il tient la règle. Et Yoda, il est ailleurs.
Bon, merci beaucoup en tout cas Alexis Lévis. Je rappelle qu'on peut lire donc Paroles de Sage, C'est de vous, c'est disponible au Seuil. Et je rappelle aussi que vous avez contribué à Philosophie Magazine, le hors-série avec qui nous sommes en partenariat. Et il est 10h54, c'est la fin des Nouveaux Chemins. Mais on se retrouve demain pour la suite de notre semaine Star Wars avec Jean-Clé Martin. Rendez-vous sur le site France Culture pour réécouter l'émission d'aujourd'hui. Rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins.